Notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble à étudier ta parole. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous limiter ce matin à entendre et écouter ta parole, s'il te plaît. Nous prions aussi que tu nous aides à ne pas seulement l'écouter, mais aussi à accomplir ta parole, à nous y conformer. Seigneur, nous prions aussi que dans ta grâce, tu nous aides à être attachés à ta parole, à ne pas l'oublier, mais à y être attachés. Seigneur, nous nous confions en toi. On sait que tu vas le faire par ton amour, par ta grâce et pour ta gloire. Amen. Donc ce matin, nous poursuivons notre série de prédication dans le livre de Jacques. Et je ne sais pas si peut-être que ce matin, j'ai fait référence là à l'instant dans ma prière du passage de la dernière prédication, donc de la semaine dernière, je pense. Donc Jacques nous encourageait à nous conformer à la parole de Dieu, à nous conformer en acte, pas seulement de l'écouter. Donc ça, c'était le passage que vous avez étudié la semaine dernière. Et donc là, le passage qui nous concerne aujourd'hui, c'est à la suite, c'est le chapitre 2, le début des chapitres 2, les versets 1 à 13. C'est bon, ça fonctionne. Alors je commence la lecture. « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place !» tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds. » Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons ? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi, parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Alors, il me semble que l'idée centrale de ce passage, elle se trouve au verset 1. Et donc, c'est « Gardons-nous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, n'est-ce pas ? Des choses qui ne peuvent pas coexister, qui ne peuvent pas aller ensemble ou être associées. On ne donne pas un verre en cristal à un enfant de moins de 3 ans. On ne confie pas une souris à un chat si on veut la retrouver en vie. Il ne peut pas faire chaud et froid en même temps. Et il en est de même pour le favoritisme qui n'est pas compatible avec notre foi. Jacques, l'auteur de cette épître, nous parle de choses très concrètes qui découlent et proviennent de notre foi ou d'autres choses, au contraire, qui n'ont rien à voir avec notre foi, qui ne peuvent pas être associées. Alors je vais vous donner quelques exemples dans l'épître de Jacques, des choses qui sont compatibles avec notre foi. Il y a les épreuves, Il y a la parole de Dieu qui se traduit en actes. Ce qui est compatible aussi avec notre foi, c'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin, comme les veuves ou les orphelins. Ce qui est compatible aussi avec notre foi, c'est la patience, le courage, et aussi de confesser nos péchés. Alors, Jacques donne des exemples aussi de choses qui sont incompatibles, qu'on ne devrait pas trouver avec notre foi. Il cite la méchanceté. Il cite de se contenter uniquement d'écouter la parole de Dieu, de ne pas tenir sa langue, de se laisser corrompre par ce monde et de se plaindre des uns des autres. Voilà, quelques exemples. Alors, mon premier point. Gardons-nous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ est incompatible avec toute forme de favoritisme? Parce que nous avons un Seigneur qui est glorieux. Le favoritisme, avec tout ce qui est associé, c'est les petits calculs, les manipulations, le fait d'être intéressé, de vouloir en tirer du profit, le manque d'amour. Finalement, le favoritisme reflète la dureté de notre cœur. Et le favoritisme et tout ce qui l'accompagne paraît complètement contradictoire à côté de la grandeur et de la gloire de Dieu. Si notre Dieu n'avait pas été aussi grand, le favoritisme ne nous aurait pas paru si petit, si mesquin, si injustifiable, si inapproprié. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. On pourrait dire tellement de choses à propos de cela. Et Jacques, dans ce passage, on va le voir par la suite, il va donner quelques éléments à propos de la gloire de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est glorieux? Alors finalement, pourquoi on arrive à cette conclusion « Jésus-Christ est glorieux » ? En fait, à chaque fois que nous avons compris, à chaque fois que nous avons vu quelque chose de la beauté ou de la grandeur de Dieu, nous pouvons nous exclamer et dire « Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux ». À chaque fois qu'on découvre quelque chose de sa grandeur et de sa beauté, nous en arrivons à la conclusion et nous pouvons dire « Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux ». Comme nous l'avons chanté ce matin, son nom est merveilleux. Alors, quelques éléments en dehors de ce texte qui nous parle de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est glorieux parce que tout a été créé par lui. Nous pouvons regarder sa création et ses créatures et nous dire « Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux ». Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux dans son incarnation. Comme le dit le théologien néerlandais Herman Bavinck, l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. C'est l'éternité qui vient au sein du temps. C'est l'immensité qui vient dans l'espace. C'est l'infini qui vient dans le fini. C'est l'éternité qui vient au sein du temps. L'immensité dans l'espace. L'immuabilité dans le changement. Le roi des rois dans le serviteur. Le tout-puissant dans l'abaissement. La vie et la lumière passant par la mort et les ténèbres. Que le Seigneur Jésus-Christ est glorieux dans son incarnation. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Les miracles que Jésus-Christ accomplit, nous pouvons dire « Jésus-Christ est glorieux ». La victoire sur tous les ennemis, le fait que Christ réconcilie tous les hommes avec Dieu, le fait qu'en Christ nous sommes une nouvelle créature, le fait que nous sommes appelés ses enfants et qu'il soit notre Père, le fait que Christ est le chef de l'Église, le fait que toutes choses sont placées sous ses pieds, qu'il domine toutes choses, le fait que son peuple sera semblable à lui. Donc Jacques nous demande de ne pas pratiquer le favoritisme. Mais s'il s'arrêtait là, il nous demanderait quelque chose d'impossible à réaliser. Mais il dit aussi de regarder à notre Seigneur Jésus-Christ qui est glorieux. Jacques nous encourage à voir le favoritisme avec l'Évangile. Nous sommes donc encouragés à regarder à notre Seigneur Jésus-Christ glorieux, quelque part à éveiller notre âme sur la gloire de Dieu, sur la grandeur de Dieu. C'est comme si Jacques ne dit « Ne faisons pas de favoritisme, Dieu nous a sauvés par grâce. Ne faisons pas de favoritisme, nous sommes aimés de Dieu. Ne faisons pas de favoritisme, Christ est mort pour nos fautes. Ne faisons pas de favoritisme. Dieu est glorieux. Jésus-Christ est glorieux. Deuxième point, le favoritisme repose sur une mauvaise appréciation des choses. Versets 2 à 4. Jacques prend un exemple de favoritisme qui pourrait avoir lieu dans l'Église à son époque. Dans son exemple, une personne riche bénéficierait d'une meilleure place pendant le culte qu'une personne pauvre. Jacques démontre que ce jugement est fondé sur de mauvaises raisons. Autrement dit, c'est la richesse qui a été prise en compte, la richesse matérielle qui a été prise en compte pour bénéficier d'une bonne place. C'est le statut social ou l'apparence qui a été prise en compte. Même si cela est très courant dans notre monde, cela n'est pas juste. Et dans cet exemple, ce sont bien les différences fondées sur de mauvaises raisons que Jacques condamne. Je note qu'il peut y avoir de bonnes raisons dans cet exemple de personnes qui pourraient bénéficier d'une bonne place. Par exemple, si quelqu'un a une mauvaise vue, je pense qu'on serait tous d'accord pour lui donner une place devant. Si quelqu'un avait un handicap, on lui donnerait la place la plus adaptée dans la salle pour qu'il puisse profiter du culte. Donc, j'ai pas vu de siège VIP ce matin en arrivant dans l'église. Donc, il me semble que le cas que présente Jacques ce matin est peut-être pas adapté à notre contexte culturel et à là où nous en sommes peut-être dans la foi aussi. Mais j'ai essayé de réfléchir aujourd'hui quelles seraient les mauvaises raisons pour lesquelles on pourrait faire du favoritisme entre nous, en plus, dans l'église. Alors, j'ai pensé à des choses, c'était pas évident, peut-être parce que c'est incompatible avec la foi. Par exemple, si on favorisait une culture, un pays ou certaines traditions dans l'église. Si on favorisait des personnes venant d'un certain statut social et que du coup, on éviterait ou on mettrait de côté des personnes venant d'un autre statut social, d'un statut différent d'une autre. Favoriser, par exemple, certaines opinions politiques ou idées sur certains sujets. Favoriser certains dons qui seraient supérieurs aux autres. Donc, voilà quelques idées de réflexion. D'une manière générale, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec les personnes qui nous ressemblent. Et dès que nous rencontrons des différences avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, nous avons tendance à les éviter et nous pouvons faire du favoritisme. Troisième point, Dieu ne fait pas de favoritisme. Jacques 2,5, écoutez mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? S'il arrive aux êtres humains de faire du favoritisme, ce n'est pas le cas de Dieu. Ce verset nous rappelle que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Riches ou pauvres sont l'objet du même amour de Dieu. Ils reçoivent le même salut, les mêmes bénédictions, le même Saint-Esprit. L'Évangile est cette bonne nouvelle qui est destinée à tous. Et il y a seulement deux choses qui limitent l'accès des êtres humains à cette bonne nouvelle. C'est le fait que cette bonne nouvelle ne leur soit pas annoncée et c'est la dureté du cœur humain. Mais là encore, ce ne sont pas des limites qui arrêtent la puissance et l'amour de Dieu. Dieu ne cessera jamais d'envoyer des personnes qui annoncent l'Évangile et le Saint-Esprit n'arrêtera jamais de convaincre les gens de leur péché et n'arrêtera jamais de leur donner la foi afin qu'ils se repentent. Dieu ne fait jamais de favoritisme. Il manifeste son amour et se révèle sans distinction, car dans sa bonté, il l'a voulu ainsi. Dieu ne peut pas favoriser quelqu'un par rapport à un autre, sinon il manquerait d'amour. Et Dieu est amour. Alors, un exemple que Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est que Dieu se révèle et témoigne son amour à tous ceux qu'il rencontre. Dieu se révèle et montre son amour à tous ceux qu'il rencontre. À des mages, Matthieu 2,1. À un roi, Matthieu 2,3. À des bergers, Luc 2,9. à des pêcheurs de métier, Matthieu 14, 19, à des malades et à des infirmes, Matthieu 5, 23, à des pratiquants de la religion juive, Matthieu 5, 24, à ceux qui sont sous l'emprise de démons, Matthieu 5, 24, à un lépreux, Matthieu 8, 2, à un officier romain, Matthieu 8, 13, à un paralysé, Matthieu 9, 2, aux collecteurs d'impôts, Matthieu 9, 10, à des personnes injustes, Matthieu 9, 13. Dieu se révèle et témoigne de son amour à tous ceux qu'il rencontre, à des aveugles, Matthieu 9, 30, à des foules, Matthieu 9, 36, à ceux qui sont considérés comme pas importants, Matthieu 11, 25, aux spécialistes de la loi, Matthieu 12, 38, à des sourds, Matthieu 15, 30, aux enfants, Matthieu 19, 14, à un jeune homme riche, Matthieu 19, 22, à un chef des pharisiens, Jean 3, 1, à une femme adultère, Jean 8, 3, à des incrédules, Jean 18, 27, Jean 20, 25, à deux criminels, Luc 23, 39, à quelqu'un qui persécute les chrétiens, Actes 9, 4, au monde entier, Actes 1, 8, à moi et à vous. En application, que nous puissions aimer et parler de Dieu à ceux que nous rencontrons sans favoritisme. Le favoritisme est incompatible avec notre foi parce que nous sommes appelés à aimer et non à mépriser. Versets 6, 8. Afin de lever toute ambiguïté, Jacques dit que le favoritisme est du mépris. Et au verset 8, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le favoritisme est donc un manque d'amour envers celui que l'on ne favorise pas ou qui nous semble moins important. Là où il y a de l'amour, personne n'est mis de côté, il n'y a donc pas de favoritisme. Si on doit un peu se creuser la tête pour trouver des situations où nous ferions du favoritisme, il est beaucoup plus facile de trouver des situations où nous manquons d'amour, les uns envers les autres. Une parole dit un peu vite, ou une parole qui n'a pas été dite, ne pas se rendre compte ou oublier une situation difficile que traverserait un frère ou une sœur. Mais alors que nous entendons cette parole de Dieu qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », une parole extrêmement exigeante et une parole extrêmement engageante, nous devons entendre simultanément que celui qui nous a donné ce commandement nous aime et nous donne sa vie en mourant à la croix. Nous sommes appelés à aimer car cela est possible, car Dieu nous a aimés et nous permet de le faire. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ nous aime et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour aimer à notre tour. Pourquoi le favoritisme est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ? C'est parce que le favoritisme, c'est désobéir à la loi de Dieu. Versets 9 à 11. Jacques rappelle aux chrétiens la gravité de tout comportement qui ferait des différences entre les personnes. Tous les comportements qui se traduiraient finalement par un manque d'amour. C'est un péché, verset 9. C'est une condamnation par la loi. C'est une désobéissance à toute la loi, même si nous respectons le reste de la loi. Jacques nous rappelle la gravité, mais aussi l'impossibilité dans ce domaine, comme dans d'autres, de respecter et d'obéir à toute la loi de Dieu par nos propres forces. Pourquoi le favoritisme est incompatible avec notre foi ? C'est que nous en sommes, dernier point, libérés et sauvés. Les versets 12 et 13 nous permettent de voir la bonne nouvelle de l'Évangile. Si dans les versets précédents, Jacques nous rappelle notre condamnation devant la loi de Dieu, il mentionne ici une situation bien différente au verset 12. Nous sommes appelés à être jugés par la loi qui donne la liberté. C'est une vérité bien différente de la loi qui nous condamne. Donc comment nous passons d'une situation d'une loi qui condamne à une loi qui libère ? Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Jésus dit « Si vous m'aimez, vous suivez mes commandements ». La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est Jésus qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Jacques introduit une deuxième notion qui nous parle de l'Évangile, la notion de pitié, la notion de grâce, la notion de bonté. Oui, nous méritons d'être jugés sans pitié et condamnés pour notre rébellion à Dieu et nos actes mauvais, mais ce n'est pas comme cela que Dieu nous regarde. En Christ, il nous fait grâce. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ est la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas condamnés, mais nous sommes sauvés. Le favoritisme est incompatible avec notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, car Dieu ne condamne pas notre manque d'amour ou notre favoritisme, mais il nous en libère. J'ai terminé, je vais nous laisser quelques instants pour prier et je conclurai par la prière.